voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches Noblecourt. Ce soir, Toutankhamon.
Madame Noblecourt, parmi vos exploits, l'un des plus grands, outre les temples de Nubie, c'est l'organisation, en 1967, de l'exposition de Toutankhamon, qui a été un coup de tonnerre dans la vie culturelle en France et d'ailleurs ensuite à l'étranger. Voulez-vous nous raconter comment vous avez réussi à surmonter toutes les difficultés pour mettre sur pied cette exposition ?
Vous me posez une question terrible, parce que il est évident que j'ai rencontré une accumulation de difficultés telles que je ne sais même pas par lesquelles je peux commencer.
Commencer par la résistance des autorités égyptiennes à faire sortir d'Égypte des trésors de cette importance.
Oui, il fallait être tenace. Parce que pour faire sortir des trésors de l'Égypte, qui n'étaient jamais sortis des vitrines depuis la découverte, c'était pas facile. Comment est-ce que je m'y suis pris si je vous disais que il y a tellement eu de difficultés, d'interférences, de luttes, de véritables luttes entre les uns et les autres, que je ne me rappelle plus lequel je dois mettre en avant.
Je me suis laissé dire que vous aviez une technique particulière, vous allez me le confirmer. Lorsqu'on vous disait non, vous retéléphoniez jusqu'à ce qu'on vous dise oui.
À peu près. Chaque fois qu'on me disait non, je n'insistais pas. Mais je prenais un certain temps pour réfléchir, pour voir par quel biais je pouvais reprendre le problème en ayant de nouveaux arguments. Ça, c'est pas facile, mais enfin, on en trouve. Et je recommençais auprès des mêmes personnes en leur disant « Vous m'avez dit non à cause de ceci, 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 mais moi, j'ai omis de vous dire cela. » Et je leur montrais que je ne leur avais pas dit, c'est quelque chose de nouveau. Alors il fallait qu'ils y repensent. Et quelquefois, ça prenait. Ça prenait.
Alors donc, vous avez réussi, après une longue lutte, à obtenir l'autorisation de sortie de tous ces beaux objets.
Oui.
Mais l'organisation de leur transport, des assurances et de leur réception en France a dû être quelque chose de colossal pour vous.
Colossal. Ce sont les Égyptiens qui ont assuré eux-mêmes leur trésor. Parce qu'ils savaient qu'en les assurant, ils toucheraient une somme énorme. C'était réassuré sur le Lloyd, qui est une réassurance tenue naturellement par les Anglais. Donc, c'était assuré. Mais c'était une énorme somme. Mais ça ne les a pas étonnés. Hein. Pour eux, ça n'a pas été le plus gros morceau.
Donc, voilà les objets arrivés en France. Il a fallu organiser en France même cette exposition.
Les attendus, les éléments essentiels que j'ai mis en avant, c'est que les objets devaient venir, ils devaient être consolidés aux frais de la France par nos restaurateurs en France ou un peu avant en Égypte pour qu'ils supportent le voyage. Et ça a été très compliqué. J'ai envoyé en Égypte les meilleurs de nos restaurateurs dans la maison, la fameuse maison Chenu, qui ont pris les mesures de chaque objet, pour lesquels chaque objet a été fait un véritable sarcophage gainé. Une boîte gainée à sa dimension, etc., enveloppée de papier cuir, puis de papier ceci, de papier cela, pour qu'il puisse supporter même 2 ou 3 mois de submersion dans un accident d'avion qui allait transporter tout ça, parce que c'est un avion qui allait tout préparer, plusieurs avions. Oh, ça a été très compliqué, mais il n'y a pas eu un accident. Tout a été bien préparé, bien prévu, bien vu, bien étudié. J'ai été là du matin au soir, j'ai jamais lâché une de ces préparations pour faire, je ne sais pas moi, prendre un week-end, pas du tout. J'ai été là nuit et jour. Et le trésor est arrivé en état, ça a été extraordinaire. le colosse en granit du roi est venu par bateau. Le masque en or est venu dans un avion spécial. Il est arrivé à l'exposition la veille. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu un pépin.
Quelles précautions avez-vous dû prendre, Madame Noblecourt, pour protéger ces trésors qui étaient arrivés en France des convoitises éventuelles?
Ah ben, d'abord pour l'arrivée, ça a été quelque chose. Parce qu'il fallait, dès l'arrivée, les mettre dans des coffres-forts. Alors vous rendez compte, des coffres-forts de cette taille-là, pour les panneaux des chapelles, etc. Ça a été toute une histoire. Alors tout ce que l'on a fait venir de Toutankhamon, qui faisait partie du mobilier funéraire, pas tout, mais une grande partie, a été engrangé dans un second petit palais métallique érigé à l'intérieur du petit palais. C'est pas mal, hein? Ça a doublé le pourtour du petit palais. Ça a été un tour de force, il faut bien le dire. Enfin, on a fini par installer tout ce qu'on devait installer au petit palais. Là, évidemment, il a fallu organiser un système de garde nuit et jour. Jusqu'à la fin de l'exposition, on s'est pas arrêté de doubler de soins pour garder ces objets avec des gardes mobiles, des gendarmes, des gens de la DST. Vous pouvez pas vous imaginer la garde invraisemblable qui a été dressée autour des trésors de Toutankhamon pour que rien n'échappe.
Comment aviez-vous conçu la disposition de l'exposition? Quelle logique aviez-vous suivi
là,
pour montrer les objets?
C'est la première fois qu'on a fait une exposition thématique. En général, les gens mettent les objets pour leur beauté. Et puis les gens passent devant en disant « Oh, comme c'est beau !» Je trouvais que c'était parfaitement emmerdant. Des objets qu'on met dans un coin, à côté d'autres objets qui ne veulent rien dire, mais parce que ce sont des beaux objets, c'est impossible à avaler. Alors, j'avais naturellement organisé des thèmes. Et les thèmes, c'était la vie et la mort de Toutankhamon. Et les objets que j'avais pris au musée du Caire étaient tous en rapport avec l'existence du roi, me permettaient grosso modo d'évoquer tous les instants les plus extraordinaires de la naissance, de la vie et de la mort du roi. Ça, c'était très important. Et je crois que c'est comme ça que nous avons eu un certain succès de muséologie, de thématique. Parce que j'ai pris les objets, non pas parce qu'ils étaient beaux, ils étaient tous beaux, je les ai pris parce qu'ils signifiaient quelque chose. Depuis la naissance, alors ça commençait à la naissance de Toutankhamon, jusqu'à sa momification et son enterrement. Et ça, ça a pris. Les gens ont été capturés par ça, et ils ont suivi l'histoire jusqu'au bout.
Oui, donc, à votre palmarès, il faut inscrire également ce haut fait. Vous avez innové dans la muséographie en introduisant l'idée d'une logique plutôt que le fait de mettre
la beauté,
côte à côte des beaux objets. Ça, c'est très important.
C'est cette chose de montrer des beaux objets, rien d'autre. Ah non, ça a été la thématique absolue. Et ça a été très bien réussi.
Alors le succès, moi-même, à l'époque, j'ai pu le constater. Ah, parlez-nous un peu de ce succès, parce que ça a été un coup de tonnerre dans la vie culturelle française.
Ah oui, vraiment.
Ah ben, c'était extraordinaire. Il y avait des fils qui faisaient tout le tour des bâtiments. Racontez-nous un peu tout ça.
Oui, mais ça aurait pu simplement la curiosité des gens.
Mais enfin, vous avez vu, hein, ça a duré combien de temps
Je ne sais pas, quelques mois.
Oui.
Ah, ça n'a pas pu durer plus que quelques mois, parce qu'il y a eu la guerre des six jours. Raison politique et guerre des six jours. Alors, il a fallu garer les objets.
Voilà. Alors, je voudrais qu'on fasse un retour en arrière et qu'on vienne maintenant à Toutankhamon. Qu'on reparle un peu de Toutankhamon, dont vous connaissez la vie par cœur, que vous nous racontiez un peu tout ce qui s'est passé sous le règne de Toutankhamon. Et puis, on terminera, bien sûr, sur l'histoire de la malédiction et de la tombe de Toutankhamon. Mais sa vie, d'abord, quel est ce roi?
Sa malédiction, pauvre petit Toutankhamon, il n'a jamais eu de malédiction. Bon, il a eu une vie très simple. Vous savez, Toutankhamon est un petit roi qui est monté sur le trône probablement très jeune, très très jeune. Et il est mort avant 20 ans.
Quelle est votre position sur ça, son statut familial? Parce qu'il y a plusieurs théories. Que pensez-vous? Pensez-vous que ce soit un fils d'Akhenaton?
On ne sait pas exactement, il est de la famille d'Amenophis IV. Mais on ne sait pas de qui il est exactement le fils. Ou de la reine Ti, ou il n'est pas le fils de Nefertiti. Probablement de la reine Ti, parce qu'il a son profil, il a le même nez, la même moue. Il doit être de la famille de la reine Ti. Mais on ne sait pas exactement de qui il est le fils. C'est un prince royal. Mais on ne sait pas. On ne peut pas dire plus.
Donc voilà ce jeune roi qui est nommé très jeune, vers 9 ans à peu près.
Oui, les autres sont morts. Alors on prend un prince qui existait et il est désigné roi.
Dans quel contexte historique? C'était un contexte très particulier.
Dans un contexte extrêmement compliqué. On ne sait pas exactement. Il était de la famille royale. Il était probablement le fils de Ti. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il n'était probablement pas, alors, le fils d'Amenophis IV. Il était de la famille de Nefertiti, probablement. Mais c'est pas sûr non plus, parce que Nefertiti, on sait même pas d'où elle vient. Et un jour, vous allez trouver un égyptologue plus malin qu'un autre, qui pourra nous démontrer que Nefertiti était une princesse mitannienne. C'est-à-dire, de l'endroit où se trouve maintenant mon Dieu, la Turquie, et qu'elle était presque une blanche. Ça se peut, on ne sait pas qui était Nefertiti. Elle était très belle, et il semble, d'après ses portraits, qu'elle devait être plutôt européenne.
Rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches-Noblecourt.
Nefertiti dans un autre entretien. Là, je voudrais qu'on se concentre sur Toutankhamon. Donc voilà, Toutankhamon montait sur le trône. Mais la vie politique était difficile à cette époque parce qu'il succédait à qui?
Il monte sur le trône. On ne sait pas exactement comment il monte sur le trône. On trouve un prince auquel on confère un statut royal. C'est tout ce qu'on savait vraiment, vous savez. Pour en dire autre chose, il est monté sur le trône. On l'a marié à une petite princesse qui devait être sa sœur, probablement.
Elle s'appelait Anres Enpaïten, puis devenue Anres Enimen.
Anxen Paaten. Elle était de la famille d'Amenophis IV. C'était une demi-sœur, quelque chose comme ça. Alors, elle est montée sur le trône avec Toutankhamon. Ils étaient tous les deux très jeunes, très beaux. Ils sont montés sur le trône, ils ne sont pas restés longtemps sur le trône, ils sont morts tous les deux. On ne sait pas exactement comment. Tout ça, c'est très mystérieux, vous savez.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sa tombe avait été totalement oubliée. Vous allez nous raconter l'histoire passionnante de la redécouverte de cette tombe par Howard Carter.
Oui, de la découverte, parce que personne ne l'avait découverte avant.
Comment ça s'est passé?
Carter, depuis très longtemps, cherchait une tombe. C'est pas laquelle, mais il était chauffé à bloc par Carnarvon, Lord Carnarvon, qui tenait absolument à faire une découverte. Et comme Lord Carnarvon s'ennuyait horriblement, qu'il était malade, c'était un tuberculeux qui vivait à Thèbes, sous le soleil pour se soigner de phtisie galopante, il était en Haute-Égypte. Et il s'ennuyait à mourir. l'intérêt qui lui a permis de continuer à vivre a été de dire, puisque j'ai de l'argent, je subventionne des fouilles. Et c'est Carter, qui était un égyptologue...
C'est l'inspecteur du service
un
égyptien.
Un inspecteur, bon, qui s'est dit, là, j'ai un moyen d'exercer mon talent de fouilleur et peut-être de trouver quelque chose. Alors, il a convaincu Carnevon de lui subventionner la fouille. Ce que Carter a fait, il a cherché un peu partout et, sans le faire exprès, il a mis la main sur une entrée qui était la bonne.
Mais auparavant, il avait quand même eu une indication sur le périmètre dans lequel devait se trouver...
Oui, dans la région où la tombe d'un certain Toutankhamon avait dû être cachée. Mais c'est tout.
Parce que dans cette vallée des rois, qui est quand même assez grande, il avait trouvé, non loin de là, une cache qui servait de cache d'embaumement.
C'était il y avait cache... des petits objets qui avaient servi, dans le fond, aux obsèques et à l'embaumement. Mais c'était tout.
Mais il savait que c'était dans la zone. Mais qu'est-ce qui...
Mais c'était dans la région, il le savait.
Mais qu'est-ce qui occultait la tombe? Qu'est-ce qui cachait la tombe?
Il y avait partout des déblais. Alors, quand on creusait une tombe, on mettait les déblais à côté, et là, c'était
celle
l'entrée de la
tombe
de Toutankhamon,
qui
était cachée, tout simplement.
Voilà. Alors, comment s'est fait la découverte? Est-ce que vous vous rappelez l'historique de cette découverte passionnante?
Ben, vous savez, ça s'est fait. On ne saura pas exactement. Carter a cherché longtemps, a cherché longtemps, Howard Carnevon, l'aiguillonné, parce que Carnevon subventionnait les fouilles, jusqu'au jour où Carter a découvert justement cette cachette qui n'était pas très loin, et il s'est dit ça ne doit pas être très loin. Alors il a encore cherché, enfin, tout ça ce sont des il y a des circonstances dont on ne connaît pas la vérité.
Ah, vous pensez qu'on ne nous a pas tout dit sur la découverte?
Non, on n'a pas toute la découverte. On la retrouvera. J'ai essayé de la retrouver dans les papiers de Carter.
Oui.
Parce que Carter a des papiers qui ont été déposés au Griffith Institute d'Oxford. Mais il y a quelques papiers qui ont été cachés.
Ah.
Et ceux-là, on ne les a pas communiqués.
Donc, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre hypothèse? Vous pensez que Carter a réécrit l'histoire de sa découverte, hein? C'est ce que vous pensez?
Oui, je pense. Il y a eu quelque chose là qui est pas net. Et que les conservateurs du Griffith Institute ont bien mis de côté. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses qu'ils ont cachées.
Parce que l'histoire raconte qu'ils ont découvert les marches de la descente.
Ah oui, mais après.
Ils ont prolongé ces marches.
Les 17 marches.
17 marches. Et alors, ils sont arrivés à
une
paroi.
Ils sont arrivés à un mur.
De plâtre, hein, qui avait été
obstrué. Et là, il a fait un trou.
Voilà.
Et il a vu, en faisant un trou, qu'il y avait quelque chose au bout. Alors, il a mis un bâton avec une lampe électrique. Et il a vu que ça brillait au bout. Et c'était quelque chose qui brillait. Et c'était une partie d'un objet doré du trésor.
Oui, l'histoire raconte le dialogue suivant. Carnavon qui était derrière, qui lui dit, brûlant d'impatience, que voyez-vous? Et Carter, qui, à la lumière tremblotante de sa lampe, discerne des éclats d'or, répond, je vois wonderful things.
Wonderful, exactement. Alors il a continué, tout ça c'était scintillant, brillant, il y est arrivé. Alors il a pu abattre ce que l'on appelle la herse, ou le mur, comme vous voulez, le mur qui avait été érigé du temps de Toutankhamon, avec dessus l'estampille du nom de Toutankhamon, sur une des briques, en terre crue. Alors il a fait sauter ça, et il est arrivé dans une seconde. D'abord, on est redescendu l'escalier, il est arrivé à une seconde porte, il l'a fait sauter après l'avoir dessiné et photographié, et il est entré devant le hall de la tombe. Ça, c'était extraordinaire. Il était lui-même affolé quand il a vu ça. C'était absolument inattendu.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette tombe?
Ben, il y avait sept pièces, sept petites pièces exiguës, qui communiquaient les unes après les autres. Et ces sept pièces prouvent que même dans l'Antiquité, il y avait eu un essai de pillage, puisque en bas du premier mur qui fermait la première pièce, il y avait eu une entrée, on avait fait un trou, on était passé, on avait regardé, on était ressorti et on avait refermé. Et pour masquer la fermeture, on avait mis un panier en osier. Mais il y avait des voleurs qui étaient entrés, mais ils n'avaient rien fait. Ils étaient entrés pour voir et ils étaient partis. Alors la Carter est entrée. Il est entré doucement, mais il y est entré. Il a d'abord fait sauter le premier mur, et puis après avoir tout dessiné, il a fait sauter le second mur. Et il est entré devant cet appartement souterrain qui était une réserve, mais qui contenait un trésor. Voilà l'histoire de Toutankhamon.
Et alors ces objets, combien y en avait-il ? Ils étaient mis en ordre ou ils étaient en désordre ? Comment ça se présentait exactement ?
Il y avait des objets qui étaient dans des coffres. Ceux-là sont bien placés et les autres étaient en désordre parce que on avait déjà essayé de les trier, de les regarder, de les fouiller, de les remettre. C'était ça. Il y avait du désordre.
Parmi les objets, quels étaient les plus spectaculaires ?
Tous les objets étaient spectaculaires, mais les bijoux qui étaient dans les coffrets étaient les plus importants.
Et alors les chapelles d'or de Toutankhamon, comment ça se présentait exactement ?
Ah, alors là, c'est différent, c'était les chapitres. Vous aviez d'abord les quatre chapitres dans une énorme salle, et remplissant la salle, il y avait une espèce de bâtisse, de maison faite de panneaux, mais de panneaux de bois complètement plaqués de feuilles d'or, qui étaient elles-mêmes burinées pour suivre le dessin du support en bois qui était sculpté. Il y avait quatre chapelles comme ça. Les unes dans les autres étaient extraordinaires, avec des objets entre chaque chapelle par terre. Alors ça a demandé beaucoup de mal à Carter pour tout défaire doucement, sans rien détériorer, en marquant tout. Oh, c'était extraordinaire. Alors il y a eu ces quatre chapelles. Après ça, il a pu démonter les chapelles, entre lesquelles il y avait des objets. Et ensuite, il est arrivé à travers les objets et les murs des chapelles qui étaient ornés et doré, il est arrivé à une cuve en quartzite qui était sculptée, qui était la cuve funéraire. Et dans la cuve, il a trouvé trois sarcophages momiformes emboîtés, tous en bois doré. Et les derniers étaient en or. Il y en avait un en bois doré, un autre en bois recouvert de feuilles d'or, et le troisième en or. Et dedans, il y avait les sarcophages. Oh, c'était extraordinaire. Et des sarcophages d'une richesse inattendue et inégalée, car c'était une tombe très humble. C'était une tombe qui a été faite à la va-vite pour cacher un sarcophage, enfin des sarcophages. Mais ce n'était pas vraiment une sépulture royale, c'était une cachette royale, mais pas une cachette funéraire, vraiment. Ah oui, c'est très curieux, c'est plein d'inattendus.
Alors, il y a une question que tout le monde se pose. On a raconté que, après l'ouverture de la tombe, tous ceux qui avaient assisté à cette ouverture sont morts, poursuivi par une malédiction mystérieuse.
Il fallait que les journalistes aient des articles à écrire. Alors, ce n'était pas facile à inventer. Ils ont quand même inventé. Ils ont mis ça sur le dos de certains types qui étaient en mauvais état. Il y a des Anglais qui sont quelquefois en mauvais état quand ils boivent trop de whisky. Enfin, c'est arrangé pour que certains, vraiment, aient la cirrhose du foie et que ça les condamne. Alors, il y a eu quelques petits ennuis. Seul qui n'a jamais rien eu, c'est Carter. Et c'est pourtant, c'est celui qui a découvert. Mais il y a eu Carnevon, qui était le bailleur de fonds, qui avait beaucoup d'argent et peu de santé. Et il avait la phtisie galopante. Alors, il est mort très rapidement. Les docteurs le prolongeaient comme ils pouvaient, mais on avait dit qu'il reste au soleil de Haute-Égypte. Il a quand même pu arriver quelques mois de supplément, mais c'est tout. Et il est mort quelque temps après. Carter, pas du tout. Allait très bien et a continué à aller très bien. Et Carter, s'il n'y avait pas eu un peu trop de whisky dans sa cave, serait encore en vie. Mais il en a tellement bu que juste à la veille de la dernière guerre, il a succombé.
On a raconté qu'il y avait une inscription à l'entrée de la tombe de Toutankhamon disant « Malheur à celui qui y entrera ». Est-ce que
non,
c'est vrai?
Non, c'est dommage. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu d'inscription. Mais ça fait bien.
Donc, création de journaliste
c'est
entièrement.
C'est un type, oui, un type qui était un écrivain, qui aimait beaucoup l'Orient, et qui a dit « Malheur à celui qui découvrira un tombeau ». Mais il ne l'a pas écrit, il l'a dit. Et alors, naturellement, ça s'est propagé, voilà. Non, il n'y avait pas de malheur.
Lorsque Carter a fait cette découverte, tous les people, comme on dirait, se sont précipités.
Les journalistes, il y a eu les journalistes du monde entier qui sont venus représenter leurs journaux. Tous les princes et les têtes couronnées ont défilé dans la vallée des rois. Partout. À tel point que Carter devenait fou. Hein. Il était assailli tous les jours par des journalistes. Il ne savait plus où donner la tête. Il n'en pouvait plus.
Donc la médiatisation était déjà...
déjà à cette époque-là, épouvantable.
Et alors ça a pris beaucoup de temps de vider la tombe, étant donné le nombre d'objets qu'il y avait.
Ah oui, ça a pris plusieurs années, parce que c'était des objets qui étaient très délicats, et je dois dire qu'à ce moment-là, il y a eu des chimistes anglais qui travaillaient au musée du Caire, dont un certain monsieur Lucas, qui a pris en main tous les objets pour les consolider, et ça a pris beaucoup de temps. Ils allaient directement au musée du Caire.
Et donc maintenant, ils se trouvent au musée du
Caire. Ah, ils sont tous au musée du Caire.
Très
tous
bien.
Tous au musée du Caire.
Mais vous nous avez fait rêver avec la muséographie, mais le prochain entretien, on parlera concrètement de la muséographie, puisque vous nous raconterez quels ont été les événements qui ont traversé votre riche carrière de conservatrice au musée du Louvre.
Voilà.
Merci madame et à demain.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches-Noblecourt. À voix nue, réalisation Christine Berlamont, prise de son Frédéric Kérou, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Mm.